VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du vendredi 8 septembre 2017. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
Au Togo, la police a utilisé hier soir des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants anti-Faure Gnassingbé Bey à Lomé.
En Côte d'Ivoire, des proches de l'ancien président Laurent Gbagbo, accusés par le gouvernement de tenter de déstabiliser le pays.
Au Sénégal, le président Macky Sall a nommé jeudi un nouveau gouvernement, plus d'un mois après les législatives.
Au Gabon, 16 partisans de l'opposant Jean-Ping, placés en détention, ils avaient été arrêtés lundi en marge d'un rassemblement de l'opposition à Libreville.
Un séisme d'une magnitude de 8 a frappé le sud du Mexique.
Ici aux États-Unis, ordre d'évacuation en Floride pour des centaines de milliers de personnes à l'approche de l'ouragan Irma qui a dévasté les îles des Caraïbes.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Togo, les forces de l'ordre ont usé hier soir de gaz lacrymogène pour disperser des militants de l'opposition qui occupaient depuis près de 10 heures le centre de Lomé, la capitale. Les manifestants réclamaient le départ du président Faure Gnassingbé et la mise en place de réformes. De Lomé, notre correspondante Kayi Lawson fait le point.
C'est dans les débandades totales qu'a pris fin la seconde journée des manifestations de l'opposition à Lomé. Les manifestants étaient délogés de la voie publique à coups de gaz lacrymogène. Il sonnait 22h temps universel quand les premières détonations retentissent. Instinctivement, c'était le repli systématique. Les leaders qui étaient au carrefour de camp prenaient le boulevard du 13 janvier côté est. Les militants se replient dans les rues adjacentes. En quelques minutes, des jeunes s'organisent, posent des barricades et ripostent avec des jets de pierre. En face, des forces de l'ordre en rang de bataille usent de grenades lacrymogènes et peut-être en usent de trop. Arrêtez les gaz, crie le chef des opérations, estimant que ces éléments ont la gâchette facile. Les gens dorment, vous allez perturber leur sommeil, ajoute-t-il en les sommant d'arrêter les tirs. L'opposition togolaise réclame dans la rue le retour à la Constitution de 1992 qui limite le mandat présidentiel et consacre un mode de scrutin à deux tours. Mais depuis la forte mobilisation des 6 et 7 septembre, les exigences ont changé. En début de soirée, Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition, demandait encore la démission du président Faure Gnassingbé et l'instauration d'une transition. Ce qui est sûr, aucune consigne n'a été donnée à l'issue de ces deux jours de manifestation qui ont mobilisé des dizaines de milliers de manifestants à Lomé. Kayi Lawson, Lomé, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a accusé hier des proches de l'ancien président Laurent Gbagbo de tenter de déstabiliser le pays à travers une série d'attaques à main armée. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a qualifié d'instigateur d'un projet de déstabilisation Stéphane Kipré, gendre de l'ex-président, et Picasso Damana, un ex-responsable du mouvement des jeunes patriotes. Les deux hommes vivent en exil. Les enquêtes après les 7 attaques à main armée ont conduit à l'arrestation de 35 personnes selon le ministre de l'Intérieur. Parmi les 35, 6 militaires et 7 civils présentés comme des miliciens. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a ajouté que le projet de déstabilisation implique des responsables politiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Ces personnes instrumentalisent et arment certains démobilisés et militaires déloyaux, a-t-il précisé. Sidiki Diakité a fait ses déclarations après un Conseil national de sécurité extraordinaire tenu au palais présidentiel. La question de la sécurité demeure en Côte d'Ivoire avec des mutineries, des attaques contre les postes de police et de gendarmerie et une série d'évasions de prisonniers. Hier, le principal axe routier dans le nord de la Côte d'Ivoire, menant vers le Burkina Faso et le Mali, a été bloqué plusieurs heures par des habitants de la région. Ils protestaient contre les attaques répétées sur les routes.
Au Sénégal, le président Macky Sall, plus d'un mois après les législatives, a nommé jeudi un nouveau gouvernement marqué par des changements au ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de la Justice et par la création d'un département du pétrole. La découverte ces dernières années de gisements de pétrole et de gaz pourrait en effet modifier l'économie du pays. Le nouveau gouvernement, dirigé par le premier ministre sortant Mahamat Boune Abdallah Diagne, compte comme le précédent 39 membres, dont 8 femmes, contre 6 auparavant. Le ministère des Affaires étrangères est désormais dirigé par Sidiki Kaba, ancien dirigeant de la Fédération internationale des droits de l'homme et ministre de la Justice sortant. Mankeur Ndiaye, qui était à la tête de ce ministère, quitte le gouvernement.
Au Gabon, 16 partisans de l'opposant Jean Ping ont été placés en détention après avoir été arrêtés lundi en marge d'un rassemblement de l'opposition à Libreville. Une dizaine d'autres étaient encore entendus par la police, a appris l'AFP de sources judiciaires. Morgane Guériec.
26 personnes ont été présentées jeudi et 10 autres le seront aujourd'hui, d'après le parquet. 16 ont été placés en détention pour attroupement non armé, ayant troublé l'ordre et la tranquillité publique, a indiqué à l'AFP le procureur de la République, Steve Dong et Sam Dong. Parmi les 10 militants relâchés figurent 6 mineurs et 4 personnes arrêtées à leur domicile alors que des manifestants s'étaient réfugiés chez eux, a-t-il précisé. Au total, 36 personnes ont été arrêtées lundi à Libreville en marge d'une marche non autorisée de quelques 300 militants pro-Ping qui a été dispersée par les forces de sécurité. Un cadre de l'opposition, Frédéric Massavala, a en outre été arrêté mercredi, a déclaré son avocat, maître Eric Igaïga. Il était toujours en audition jeudi soir, a indiqué de son côté le procureur. Des recherches d'indices et d'éléments compromettants chez ce porte-parole de la Coalition pour la Nouvelle République, CNR, le parti autour de Jean Ping, se poursuivent, a ajouté le magistrat.
Au Kenya, le président de la commission électorale, Afula Chebukati, admet l'existence de défaillances dans la conduite de l'élection présidentielle du 8 août, invalidée par la justice. Précision d'Abdourahman Dia.
Dans une lettre interne envoyée à son directeur exécutif et divulguée hier par la presse kenyane, le président de la commission électorale liste toute une série d'erreurs commises par son équipe dans l'organisation des élections. M. Chebukati s'étonne notamment que certains procès-verbaux de bureaux de vote ne présentaient pas les signes d'authentification prévus par la commission. Il se demande aussi pourquoi les téléphones satellitaires achetés au coût total de 6,7 millions d'euros pour couvrir les bureaux de vote de localités reculées n'ont pas fonctionné. M. Chebukati s'interroge enfin sur le fait qu'on compte avec un identifiant et un mot de passe à son nom, créé à son insu, ait été utilisé près de 10 000 fois pour accéder au système informatique de la commission électorale. Saisie par l'opposant Raila Odinga, la Cour suprême du Kenya avait invalidé le 1er septembre la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta en raison d'irrégularités révélées dans la transmission des résultats. Une nouvelle date pour le scrutin est fixée au 17 octobre.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un séisme de magnitude 8 a frappé le sud du Mexique dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé le Centre géologique américain, l'USGS, en faisant état d'un risque de tsunami. L'épicentre de la secousse était situé à environ 100 km au large de la côte de l'État de Chiapas. Le séisme a été ressenti jusque dans la capitale où des centaines de personnes sont sorties avec précipitation dans la rue après le déclenchement de l'alerte sismique, a constaté l'AFP. Le président Enrique Peña Nieto a indiqué sur Twitter que les protocoles de la protection civile avaient été déclenchés du fait de la puissance de la secousse. Pour rappel, en 1985, un tremblement de terre de 8,1 avait dévasté une grande partie de la capitale et fait plus de 10 000 morts.
Et puis des vents violents et de fortes pluies balaient Haïti et la République dominicaine, mais l'œil du cyclone Irma n'a pas touché directement leur territoire. Selon les services météo, il devait passer hier soir entre Hispaniola, l'île que partagent les deux nations, et les îles Turques et Caïques, avant de se diriger vers sa prochaine cible, Cuba et les Bahamas. L'ouragan Irma, avec ses vents soufflant à 280 km/h, est considéré toujours comme étant très dangereux. Selon l'AFP, le bilan de son passage s'est alourdi jeudi soir. avec 10 morts dans plusieurs îles caribéennes dévastées par ce cyclone de catégorie 5 qui menace également la Floride où les autorités ont lancé des ordres d'évacuation pour des centaines de milliers de personnes.
L'ouragan est attendu vendredi soir à Cuba et devrait remonter ensuite vers la côte sud-est des États-Unis, frappant d'abord la Floride, puis la Géorgie et la Caroline du Sud, selon les prévisions du Centre américain des ouragans. Le président Donald Trump, qui a déjà déclaré l'état d'urgence à Porto Rico, a exprimé hier à Washington sa vive inquiétude quant aux dégâts que le cyclone pourrait provoquer.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco est qui abonne.
Le taux de croissance dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine est évalué à 6,9% pour l'ensemble de l'année 2017. C'est l'une des annonces issues de la réunion du comité de politique monétaire de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le taux attendu est en hausse en comparaison avec ceux des années 2015 et 2016 qui étaient respectivement à 6,6% et 6,7%. Le continent africain va bénéficier d'un financement de 280 millions de dollars pour lancer sa révolution verte. C'est un projet financé pour l'essentiel par les fondations Bill et Melinda Gates, Rockefeller et l'Agence des États-Unis pour le développement international. Selon les bailleurs de fonds, 30 millions d'exploitations agricoles familiales de petite taille dans au moins 11 pays sont concernées en Afrique. L'agriculture est considérée comme la base de la croissance économique du continent. La Turquie et le Sénégal continuent de parfaire leur collaboration économique. Ankara entend porter le volume de ses échanges commerciaux avec Dakar de 160 millions de dollars en 2016 à 200 millions de dollars à la fin de l'année, indique son ministre de l'Intérieur. En 2013 déjà, Recep Tayyip Erdogan, alors Premier ministre, avait fixé un objectif de 250 millions de dollars.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
En football, le Mali n'a plus de sélectionneur.
Après la quasi-élimination des Maliens pour le Mondial 2018, Alain Giresse démissionne. C'est Boubacar Baba Diarra, le président de la FEMAFOOT, qui l'a annoncé hier depuis Bamako. On l'écoute.
Le sélectionneur a été très bref dans sa lettre. Il m'a fait part de certains soucis relatifs vraiment d'abord à sa sécurité. Et ensuite, il m'a dit que psychologiquement, mentalement, il n'était plus prêt à poursuivre la mission d'entraîner les Aigles du Mali. Il souhaiterait vraiment mettre fin à son contrat. Dès hier, j'ai donné mon accord compte tenu de son argumentaire. Il a appuyé cette démarche par une lettre officielle de démission. Il a demandé à bénéficier de 2 jours de congé pour retourner en France, aller se décompresser un peu, venir à Bamako, et faire sa valise et dire officiellement au revoir au monde du football.
Boubacar Baba Diarra, le président de la FEMAFOOT, au micro VOA Afrique de Siaka Traoré. On rappelle qu'Alain Giresse a jeté l'éponge à 3 mois de la fin de son contrat qui expire le 30 novembre 2017. À 5 longueurs du leader du groupe C, la Côte d'Ivoire, le Mali n'a plus que d'infimes chances de qualification à 2 journées de la fin.
On reparle ce matin encore du match Sénégal-Afrique du Sud qui avait fait tant de bruit en novembre dernier.
Et oui, l'Afrique du Sud n'exclut pas d'intenter un recours contre la décision de la FIFA de faire rejouer le match de qualification mondiale 2018 contre le Sénégal pour manipulation par l'arbitre. C'est ce qu'annoncent les Bafana Bafana dans un communiqué. La Fédération Sud-Africaine de Football a tenu à souligner qu'elle n'était en aucun cas impliquée dans la moindre action illégale liée à l'attitude de l'arbitre, comme le dit la FIFA dans son rapport, qui n'a pourtant pas encore rendu public ce rapport. La décision de la FIFA va arranger le Sénégal qui avait perdu la rencontre 2-1 en Afrique du Sud. Le match va être rejoué en novembre prochain. Il offre une belle occasion aux Sénégalais, actuellement 3e à 1 point du Cap-Vert et du Burkina Faso, de prendre la tête du groupe. On rappelle Idrissa que seul le premier de chaque groupe pourra aller en Russie l'année prochaine.
C'était annoncé, c'est fait. En Angleterre, le mercato sera plus court.
Les clubs de la puissante première ligue anglaise se sont accordés ce jeudi pour clôturer leur mercato avant la reprise du championnat, comme l'ont réclamé plusieurs acteurs majeurs du football continental.
Tennis, place aux demi-finales de l'US Open.
Après avoir fait chuter Roger Federer en quart de finale, Juan Martín del Potro défie un autre géant du tennis, Rafael Nadal. Ce sera tout à l'heure en demi-finale de l'US Open. Dans l'autre demi-finale, pour la première fois de leur carrière, l'Espagnol Pablo Carreño Busta et le Sud-Africain Kevin Anderson vont disputer un match du dernier carré lors de cette quinzaine du tournoi du Grand Chelem.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sibulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. À l'occasion de la conférence des donateurs pour le Tchad à Paris, la plateforme de revendication citoyenne tchadienne a organisé un contre-forum dans la capitale française pour contester la levée de fonds. Selon la société civile et l'opposition, ces fonds ne feront qu'alimenter la corruption et accentuer le surendettement du pays s'ils ne sont pas suivis de mesures de contrôle et d'accompagnement en matière de gestion. Nathalie Barge a joint Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, coordonnateur du pacte, membre de la PRC.
Nous sommes réunis pour attirer l'attention de la communauté internationale, des bailleurs de fonds, des institutions européennes et de la France qui s'apprêtent à soutenir le gouvernement tchadien pour lever des fonds. Nous leur rappelons la situation actuelle du Tchad, catastrophique, est due à la malgouvernance et surtout à la manque de vision de développement. On ne peut pas redonner encore une troisième fois des outils, de l'argent et des financements à un gouvernement qui a déjà échoué deux fois dans le même cas de figure. Il faut déjà leur demander à ce gouvernement qu'est-ce qu'il a fait de l'argent qu'ils leur ont donné deux fois. Et de deux, le Tchad a eu 10 années de pétrole, de revenus du pétrole. Personne n'a demandé pourquoi, avec 13 000 milliards de dollars, on n'arrive pas à développer le Tchad. On rappelle aussi à cette communauté internationale que ce même gouvernement a opprimé son peuple. La liberté d'expression n'existe pas. La démocratie n'existe pas. On est en pleine crise post-électorale. Si vraiment cette communauté internationale veut aider le Tchad, ce n'est pas de donner de l'argent à ce gouvernement, mais d'exiger de ce gouvernement-là une administration fiable, une gestion saine et surtout d'aider le Tchad à régler cette crise post-électorale.
Est-ce que vous avez rencontré notamment certaines personnes des autorités françaises pour demander des comptes finalement sur la manière dont seraient distribués ces fonds par rapport aux garanties que vous exigez?
Justement, le fait de donner de l'argent ou se mobiliser auprès du gouvernement d'Idriss Déby pour lever des fonds et leur donner de l'argent frais, sans condition, montre que la France, l'Union européenne, leur priorité n'est pas la bonne gouvernance, pas la démocratie, mais leur priorité, ce sont les intérêts géostratégiques, économiques et sécuritaires du Sahel et de l'Afrique. Leur intérêt, c'est leur politique migratoire. Et quand on sait qu'ils sont en train de chuchoter Idriss Déby, c'est parce qu'ils veulent que le Tchad et le Niger traitent les réfugiés qui remontent de l'Afrique vers l'Union européenne. Nous sommes très inquiets par ces engagements qu'Idriss Déby et son gouvernement qui sont en train de prendre vis-à-vis de la communauté internationale, parce que ce n'est pas lui qui va le payer, c'est la génération future qui va le payer. Donc, c'est nous les comptables. Si c'est nous qui sommes les comptables, nous devons nous mobiliser pour empêcher une énième dette qui va encore alourdir cette dette qui nous pèse déjà dessus. Donc nous sommes concernés et nous nous impliquerons pour qu'aujourd'hui un gouvernement ne puisse pas se permettre d'aller prendre des engagements en notre nom.
Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, coordonnateur du pacte, membre de la plateforme de revendication citoyenne.
Béo-Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM. Au Tchad.
Une conférence intitulée « Journée tout extrémisme report », qu'on peut traduire par « l'itinéraire vers l'extrémisme », s'est tenue à New York. Elle met en lumière une étude du PNUD s'appuyant sur des entretiens avec des centaines d'extrémistes, une première du genre. Ekia Badou a joint à New York Abdoulaye Mardier, directeur du Bureau régional pour l'Afrique, au programme des Nations Unies pour le développement.
l'extrémisme violent était en train de violer et de voler la croissance économique de l'Afrique qu'on a connue ces 15 dernières années. Et on a vu des pays comme le Nigeria ou les Kenya perdre énormément en termes de croissance économique, que ce soit 1 à 2%, une réduction impressionnante du tourisme, etc. Donc c'était en train de détruire un peu, de saper leur performance économique. C'est pourquoi nous, en tant qu'acteurs de développement, nous nous sommes intéressés à cela.
Justement, on a donc Boko Haram, El Shabab. Qu'est-ce qui fait que ces jeunes, de plus en plus, vont vers ces organisations?
Plusieurs facteurs, dont la frustration, un manque d'emploi, la pauvreté, la faiblesse de la gouvernance dans ces pays-là, surtout dans les zones frontalières de tous ces pays, numéro un. Et numéro deux, c'est le niveau d'éducation qui est extrêmement faible, surtout le niveau d'éducation religieuse. Certains n'ont même jamais lu ni la Bible ou le Coran. Ce terreau est un terreau fertile qui a fait que des groupes comme Mourabitoun, Al-Shabaab, Boko Haram ont pu puiser. Mais ce qui les a poussés, et le rapport le démontre avec des chiffres à l'appui, c'est l'absence du gouvernement ou quelquefois les réponses inappropriées du gouvernement. Réponses en termes économiques ou même en termes sécuritaires ou policiers. Donc c'est ce qu'on appelle le tipping point en anglais, le point de basculement.
Alors le rapport paraît très documenté, donc entre les raisons que vous avez pu déceler, mais également avec des témoignages, on parle de 495 recrues. Volontaires. Parlez-nous un peu de ces recrues qui ont pu être rencontrées dans ce rapport.
C'est ça un peu le caractère inédit et unique de notre enquête. Nous sommes allés dans les prisons, c'est une opération risquée, mais qui veut faire du développement inclut le risque. Nous avons vu des gens qui ont quitté ces mouvements avec regret. Ceux qui sont sortis, vraiment, les recrues qui ont pu échapper, le font avec regret. Et là aussi, il y a une leçon fondamentale que nous avons tirée, c'est qu'ils ont été désenchantés par rapport à l'idéologie qu'on leur vendait. Et ils ont vu que c'était creux et c'était rien du tout. C'était donc une simple instrumentalisation de leur corps. Mais la réinsertion passe un peu par... Il y a énormément de traumas. L'éducation et la rééducation, la réinsertion pour leur trouver de l'emploi. Tant qu'on ne résout pas la question de l'emploi jeune, en Afrique et dans le monde, la question lancinante de l'éducation. Et pour moi, ce sont les deux grandes variables. On aura toujours ce phénomène-là, c'est-à-dire on aura toujours cette vulnérabilité de la jeunesse face à ces prédateurs qui sont ces idéologues de l'extrémisme violent.
Abdoulaye Mardié, directeur du Bureau régional pour l'Afrique au Programme des Nations Unies pour le développement.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
L'annulation de la présidentielle kényane du 8 août a relancé le débat sur la pertinence du recours à des systèmes électroniques dans les élections. Un nombre croissant de pays africains se tournent en effet vers le vote électronique ou envisagent de le faire. Eric Manirakiza a joint à Washington le chargé de programme Afrique auprès de la Fondation nationale pour la démocratie, Pierre Tanchou.
La première force, je dirais, du système électronique, c'est la viabilité de la liste électorale, parce que justement, quand les électeurs s'enregistrent électroniquement, c'est plus difficile pour quelqu'un de s'enregistrer deux fois. Nous avons vu, par exemple, le cas dans le Tchad, dans les élections de l'année passée, où certaines régions qui représentaient le bastion, en fait, du président Déby, dans ces régions-là, nous voyons une très grande différence entre les électeurs qui étaient enregistrés pour les élections de 2016 et les élections passées. Donc je dirais que le système électronique biométrique est toujours viable, mais comme toute chose, à ses faiblesses.
Et dans le cas du Kenya, on a vu qu'il s'est posé un grand problème au niveau de la transmission des résultats.
Oui, tout à fait. Je dirais que ce problème de transmission des résultats peut surtout être, disons, dirigé vers le problème qui a à voir avec les compagnies qui sont chargées des machines, qui sont chargées de cette transmission. Très souvent, dans les pays peut-être un peu où il y a un peu plus de dictature, on pourrait dire, ces compagnies sont achetées ou alors sont dirigées par les gouvernements sortants. Eux aussi, donc, à travers la compagnie, en fait, contrôlent les résultats. Donc, je dirais plus que c'est souvent difficile de dire à la population d'un certain pays de confier ses voix, confier le compte de ses voix, la transmission de ses voix à une compagnie étrangère qui, elle, est supposée être indépendante en effet, mais juste s'inquiète plutôt de sa réputation ou alors s'inquiète plutôt de son chiffre d'affaires que forcément du fait que les voix des électeurs soient comptées d'une manière juste.
Comment éviter ce genre de fraude?
C'est difficile d'éviter ce genre de vote. Je sais qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont en train d'être faites sur le système électronique en ce moment pour rendre la tâche plus difficile pour ceux qui veulent truquer le vote. Mais je dirais que la première des choses, c'est déjà la transparence des institutions. Même si les machines électroniques ne peuvent pas être fiables, tout comme nous l'avons vu au Kenya, s'il y a des institutions transparentes, les erreurs seront revues, seront dénoncées par les institutions qui sont supposées le faire. Donc je pense que comment empêcher la tricherie à un certain niveau, même dans les pays de l'Ouest, s'il y a la tricherie dans les élections, c'est difficile à faire, mais du moment qu'il y a un système en place qui est supposé marcher, supposé surveiller ce genre de vote, je pense que ce sera toujours bien.
Il y a des pays qui adoptent le même système, bientôt la RDC.
Ah, le problème de la RDC, c'est un problème encore plus complexe. On peut dire que cette annonce qu'on risque d'utiliser justement le système électronique pour les élections peut être vue par certains comme encore une tactique de glissement, comme on peut le dire. Malheureusement, la commission électorale indépendante en RDC n'est pas vue vraiment comme étant indépendante, mais plutôt un outil de la majorité présidentielle. Donc c'est tout un processus qui va encore retarder des élections qui étaient supposées se passer l'année passée. Donc la possibilité, viabilité d'utiliser ces machines pour les élections en RDC est pour moi, je dirais, est très suspecte.
Pierre Tanchu de la Fondation nationale pour la démocratie à Washington. L'ONG Médecins sans frontières fustige dans une lettre ouverte au gouvernement européen publiée hier les mauvais traitements infligés en Libye aux migrants tentant de traverser la Méditerranée. MSF critique la politique migratoire de l'Union européenne, accusée d'alimenter un système criminel. Citation. Pour davantage de détails, Claire Morin-Gibourg a joint le directeur d'études de MSF, Michael Newman.
Donc il s'agit d'abord de dénoncer, de décrire et de dénoncer des pratiques de détention et de maintien en captivité de migrants en Libye basées sur une expérience d'un an, un peu plus d'un an maintenant, dans les centres de détention, notamment dans la ville de Tripoli, où nous observons des conditions terribles dans lesquelles les gens sont gardés de manière totalement arbitraire et sujets à torture, mauvais traitements, viol.
MSF fustige aussi les gouvernements européens pour ces mauvais traitements.
Oui, alors disons que les Européens ne sont pas directement responsables des mauvais traitements infligés aux migrants. Par contre, ils semblent s'en accommoder avec une facilité qui est plus que déconcertante, qui est très choquante, en faisant de la Libye, comme c'était le cas déjà il y a quelques années, et de nouveau le cas récemment, en faisant de la Libye un des éléments majeurs du dispositif de fermeture de l'Europe aux populations migrantes qui souhaiteraient s'y rendre. Et donc on voit les Européens, et notamment les Européens en général, l'Union Européenne, mais les Italiens en particulier, rentrer dans des partenariats, par exemple avec les gardes-côtes libyens, qui interceptent des bateaux de migrants qui souhaitent se rendre en Europe et qui les ramènent ensuite dans les centres de détention dont je viens de vous décrire des conditions atroces. On voit là finalement que l'Europe juge que tout ça, finalement, c'est pas grave, on peut s'en accommoder, le principal objectif étant, en tout cas pour l'heure, atteint, c'est-à-dire que eh bien, il n'y a plus de migrants qui arrivent sur les côtes, et donc, loin des yeux, loin du cœur, c'est plus un problème dont on a à se préoccuper. Eh bien, nous, on a envie de rappeler que le problème, il existe toujours, il est d'autant plus important que, finalement, l'Europe finance aujourd'hui ce dispositif totalement macabre.
Michael Newman, directeur d'études de l'ONG Médecins sans frontières.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Onde Courte, le samedi et le dimanche à 20h30. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Zeynab Abdelrahman. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.